La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de la mêlée de l'info pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. J'ai invité cette semaine Alice Assier, militante du parti Génération, soutien de la NUPES, Marie-Christine Monnoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités en sciences de gestion, et enfin Thierry Cotel, directeur d'entreprise, conseiller régional d'Occitanie, vice-président national du mouvement républicain et citoyen. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'avoir répondu à mon invitation et je remercie en particulier Alice Assier qui participe pour la première fois à la mêlée. Le sujet à la une de l'actualité cette semaine, c'est bien sûr la marche contre l'antisémitisme et les réactions, commentaires qu'elle a suscitées depuis qu'elle a eu lieu dimanche après-midi à Paris et dans diverses villes et métropoles françaises. Elle a rassemblé, selon la police, 105 000 personnes à Paris et 182 000 en tout dans l'ensemble du pays. Est-ce que vous considérez personnellement qu'elle a été un succès de par son déroulement, les personnalités présentes et le nombre de manifestants? Et quelles leçons en tirez-vous? Je pose d'abord la question à Marie-Christine Monnoyer.
Alors, une marche comme celle-ci était évidemment importante et certainement nécessaire au moment où la population juive se sent dans une situation de grande difficulté, et elle en a, surtout à Toulouse, des souvenirs difficiles. Donc c'était certainement nécessaire. Et en même temps, le terme est maintenant tellement fréquent que je n'ose plus l'utiliser, et en même temps pourtant, la situation de la guerre entre Israël et les pays arabes, ou du moins, et
le Hamas, pour
et
l'instant.
Le Hamas, et on va dire, et juste le Hamas, est tellement lourde que nous sommes aussi, je crois, très, très attentifs à la situation de la population d'origine musulmane, qui, ou musulmane en France, qui se sent agressée alors que nous ne sommes que sur le territoire français. Donc je crois que nous devons avoir en tête les douleurs à la fois des musulmans et des juifs.
Alors, est-ce que la manifestation était un succès tout de même, selon vous? Je ne sais pas s'il faut parler de succès pour une manifestation, mais en tout cas, par rapport à ce qui était attendu.
La manifestation était importante. Elle a rassemblé beaucoup de gens. Je crois que, et la presse en est largement fait l'écho, il aurait été sans doute possible qu'elle soit plus importante, puisque nombreux ont été ceux qui n'ont pas osé y aller ou qui n'ont pas voulu y aller, étant donné les personnalités qui étaient dans le cortège.
Vous pensez que c'est ça qui a fait qu'elle a été de moindre ampleur que ce qu'on aurait pu attendre?
Il me semble, il y a une logique dans cette explication.
Alors, on va revenir sur ce point. Thierry Cotel, est-ce que vous pensez que ça a été un succès, cette manifestation? Est-ce que vous en tirez des leçons? Alors, les leçons que tire Marie-Christine Monnoyer, c'est que, vu les personnalités qui étaient dans le cortège, on parlera de certaines tout à l'heure, peut-être que certains n'ont pas voulu s'y rendre à cause de ça.
Mon sentiment personnel, c'est que ça n'a pas été non plus un énorme succès, au sens où un nombre de personnes c'est vraiment élevé contre l'antisémitisme. C'était très bien d'organiser cette manifestation, il fallait le faire. Par le nombre, on ne peut pas dire que ce soit en fait un raz-de-marée, un soulèvement spontané contre l'antisémitisme et le racisme. Je pense que malheureusement, l'antisémitisme, qui n'est pas nouveau non plus dans notre pays, qui s'est démultiplié ces derniers mois, mais qui fait partie aussi, malheureusement, de notre histoire. Quand je dis notre histoire, ce n'est pas l'histoire récente contemporaine, c'est aussi... C'est l'antisémitisme, il y a 2000 ans, quoi, dans nos sociétés occidentales. Ce n'est pas un phénomène d'ailleurs qui est propre à la France, c'est un phénomène aussi qu'on rencontre dans les autres pays occidentaux. Donc cet antisémitisme-là, qu'il faut évidemment combattre, même si maintenant, évidemment, il a une autre couleur, j'allais dire, c'est-à-dire avec le conflit israélo-palestinien qui exacerbe peut-être un certain sentiment d'antisémitisme pour une certaine partie de la population, il n'en reste pas moins qu'il faut moi, je suis très inquiet de, en fait, de ce qui est en train de se passer, parce qu'on sait très bien que quand on a des actes antisémites aussi importants, c'est toujours le prélude en fait, à des catastrophes particulières. Et tout ça vient sur la base d'une société qui reste extrêmement fracturée. On ne le dit peut-être pas assez, mais fracture sociale, fracture territoriale. On a un pays qui ne va pas si bien que ça. Et donc, on a toujours cherché, d'ailleurs, des boucs émissaires. Et malheureusement, le juif, pour être très direct, a été ce bouc émissaire-là tout au long de nos 2000 ans d'histoire. Moi, je pense que la manifestation, effectivement, aurait pu être un petit peu plus importante. Peut-être qu'il y avait certaines personnalités, on y reviendra peut-être tout à l'heure,
oui, là,
par rapport à la présence du Rassemblement national notamment. Il n'en reste pas moins que sociologiquement, on voit bien que... moi, j'étais à la manifestation de dimanche, ici à Toulouse. On voyait bien que ce qui avait mobilisé, ça s'est resté. C'est resté quand même, en fait, je pense, sociologiquement, des gens qui, d'un certain niveau... professionnel ou d'un niveau plutôt intellectuel, et il manquait toute une frange de la population qui finalement est relativement passive par rapport à ce qui est en train de se passer, qui est quand même un véritable scandale. C'est-à-dire que actuellement être juif, nos compatriotes juifs en France subissent effectivement un certain nombre d'actes antisémites. Certains sont dans une situation où ils n'osent même plus sortir, et on parle même pas de sortir dans certains quartiers, on parle même de sortir tout court
de
chez eux. Voilà.
Alors, Alice Assis, après ces deux premières interventions, vous, la manifestation, je crois que vous étiez présente. Oui.
Certains membres de génération étaient voilà. présents, en effet.
Et est-ce que vous considérez que ça a été un succès? Bon, 105 000 personnes à Paris, 182 000 dans l'ensemble du pays. En même temps, il y avait à Londres une manifestation pour la Palestine qui a rassemblé 300 000 personnes. Bon, on voit un peu, vous voyez, la différence. Ce n'était pas tout à fait la même population, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Alors, vous, votre avis?
Oui, oui. Mais je pense que ce qui se voulait comme un moment d'unité nationale a plutôt finalement accentué les divisions politiques, et on l'a vu créer une polémique autour de la participation du Front National, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Et nous, même si la présence du Rassemblement National, certains membres de génération se sont rendus à cette manifestation dimanche. Nous avons appelé à lutter en permanence contre l'antisémitisme, mais également contre toutes les formes de racisme. Je ne vais pas redire ce qui a été dit par mes deux confrères, mais par contre, je voulais mettre aussi l'accent sur le fait que la veille, le samedi, il y avait également une manifestation qui était organisée à l'initiative des syndicats, notamment la CGT, la FSU, Solidaires, et nous nous sommes joints à ce cortège aux côtés d'autres partis politiques, notamment l'Europe Écologie, les Verts et la France Insoumise. Et le mot d'ordre de cette manifestation, c'était pour la paix et pour le cessez-le-feu. Et donc cette manifestation est semblable à d'autres qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Elle est reconduite ce samedi 18 novembre, et j'appelle toutes les personnes dont c'est la conviction à venir manifester à nos côtés pour appeler à mettre fin à ce massacre et pour appeler à une paix juste et durable. Donc, bien évidemment, je ne veux pas opposer ces deux manifestations. Je pense que les deux étaient très importantes.
Éventuellement complémentaires, selon vous.
Oui, tellement. Oui.
Alors, Thierry Cottel a abordé le sujet. Il y a pas mal d'observateurs qui ont remarqué que parmi les participants à cette manifestation, il y avait plutôt des personnes de 50 ans et plus. Plutôt des classes aisées, a dit Thierry Cottel, ou les CSP+, comme on dit, et qu'il n'y avait pas trop de jeunes et pas beaucoup de citoyens de confession musulmane. Alors, je ne sais pas si vous avez eu aussi cette impression, mais qu'est-ce que ça dit sur la société française d'aujourd'hui, si cette impression vous la confirmez?
D'abord, il est logique que le problème de l'antisémitisme soit perçu plus fortement par les populations qui ont le souvenir ancré dans leur mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, bon, il n'y en a plus tellement, mais ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale...
Vous savez, les boomers sont plutôt nés...
Après. Mais ça, oui, mais ils sont fils d'eux.
Certes, puis bon, peut-être que c'était enseigné aussi différemment.
Ils sont fils d'eux.
On vivait encore dedans, effectivement.
Voilà, et pendant des années et des années,
aussi, ça recommence.
Dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, la prise de conscience des conséquences de l'antisémitisme ont été très fortement ont fortement marqué les mémoires, j'ai envie de dire l'éthique. Il y a eu une reprise de l'éthique. Et je crois que ça, c'est logique que ces populations soient plus sensibles. Pour la jeune génération, l'antisémitisme, c'est difficile à imaginer. Parce que les pogroms, qu'est-ce que ça veut dire ? Les actes antisémites, il a fallu qu'à Toulouse, on vive quelque chose de catastrophique pour que certains jeunes se disent « ça existe encore ».
Oui, justement. Justement, c'était il y a maintenant plus de 10 ans.
Oui, c'était il y a 10 ans.
Et puis, après, il y a eu le massacre après Charlie Hebdo, l'hyper-cacher. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit, dont on ait repris conscience à l'occasion de ce qui vient de se passer en Israël, il me semble.
Non, mais ce qui s'est passé à Toulouse, c'était juste à Toulouse. Et donc, bien sûr, ça a eu un effet. On a vu les présidents de la République venir, etc. Mais pour la jeune génération, c'est très compliqué d'intégrer le fait que l'antisémitisme puisse être aussi lourd, aussi effrayant que ce que l'on a vu en Israël le 7 octobre.
Thierry Cotel.
Oui, moi, je pense que ce qui s'est passé à Toulouse il y a quelques années, qui avait quand même évidemment une résonance qui dépassait largement en fait le département,
oui,
j'allais dire.
D'autant plus qu'il y a des répliques tout de même.
Moi, je constate qu'on parle toujours en fait de ce qui s'est passé avec Mohamed Merah, mais on ne parle jamais finalement des noms des victimes de l'époque. Et malheureusement, ça dit quelque chose, je pense, par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on a une société qui est extrêmement fracturée, on a un problème d'intégration aussi d'un certain nombre de populations qui posent problème, sur lesquelles la République n'arrive plus finalement à permettre cette intégration-là. Et on arrive finalement à ne plus pouvoir enseigner même dans un certain nombre de classes ce qui s'est passé avec la Shoah, ou en tout cas d'être systématiquement remis en cause lorsqu'on enseigne notre histoire contemporaine. Ça pose quelques problèmes de l'autorité de l'école, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, sur la façon dont les choses sont transmises, ou plus exactement ne sont plus transmises, même si il y a énormément d'efforts, même si à chaque fois les jeunes, on essaie de les sensibiliser par des voyages, par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Non, moi je pense qu'on a un vrai problème de séparation aussi entre ce qui peut se passer dans le Moyen-Orient et tout, mais on peut comprendre aussi que il y a certains qui exacerbent finalement un petit peu les tensions qu'il peut y avoir au Moyen-Orient. Et finalement, cet état de fait qui n'est toujours pas résolu et sur lequel d'ailleurs les puissances occidentales ou les pays, y compris les pays arabes, n'arrivent absolument plus à se faire entendre pour essayer de rendre le conflit israélo-palestinien acceptable, est un vrai problème. Et on le voit maintenant quand ce qui se passe par rapport à Gaza, la solution de toute façon, ce sera uniquement une solution politique. Ça a toujours été d'ailleurs une solution politique. Et on voit bien que les choses, en fait, continuent de se dégrader. Bon, ce qui se... Je pourrais l'étendre même au-delà du conflit israélo-palestinien, ce qui a été fait aussi dans les deux guerres d'Irak, celle de 91 et celle qui est venue après, en 2003, est aussi vécu par le monde arabo-musulman comme étant une injustice particulière. Et on est arrivé à un résultat où finalement l'islamisme, qui est la vraie gangrène finalement de l'islam, hein, l'islamisme politique, arrive à des solutions qui ne sont pas acceptables, et ça pèse évidemment sur le fait d'essayer de résoudre ce conflit qui n'en finit plus. On le voit bien par rapport à ce qui s'est passé.
Y compris parmi les populations arabo-musulmanes de France.
Y compris aussi, alors pas toutes, hein, parce qu'il faut quand même aussi reconnaître, le problème c'est que, voilà, c'est-à-dire que, moi je pense, considère qu'à chaque fois, quelles que soient finalement nos origines, et quelles que soient surtout notre croyance ou pas, c'est quand même la République qui peut résoudre ce problème-là. Et on vit quand même en France dans une société où le communautarisme a été relativement mis de côté, mais on voit bien qu'il y a des relents de communautarisme qui posent de véritables problèmes. qu'à voir ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Vous parliez de grandes manifestations qui étaient extrêmement...
au Royaume-Uni,
à Londres, notamment, mais même aux États-Unis.
Et là, dans les universités américaines.
Je le lis avec un mélange entre le communautarisme qui est extrêmement bien organisé et qui est d'ailleurs reconnu comme tel, et en même temps aussi une frange de la population qui prend parti dans un sens et qui attise également aussi... les tensions entre
communautés. Alors, Alice Assier, d'abord, première question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait effectivement plutôt peu de jeunes et peu de citoyens de confession musulmane présents à la marche contre l'antisémitisme dimanche? Et puis, si c'est le cas, qu'est-ce que ça dit sur la société française aujourd'hui?
Pour moi, pour revenir à cette manifestation, j'aurais vraiment souhaité que ce soit un rassemblement qui appelle donc à lutter contre l'antisémitisme, mais plus largement à toutes les formes de racisme et de discrimination, et notamment contre l'islamophobie, ce qui, je crois, au regard de l'actualité, aurait permis d'avoir une manifestation un peu plus rassembleuse et peut-être aussi accentuer la dimension nationale qu'avait pour but cette manifestation.
Oui, alors, sauf qu'actuellement, c'est quand même les actes d'antisémitisme
qui
sont les plus inquiétants et de loin.
On meurt parce qu'on est juif, on ne meurt pas parce qu'on est musulman.
Oui, mais on est interpellé parce qu'on est musulman.
Oui, il y a quand même une recrue.
C'est différent.
Je suis bien
d'accord. Et je pense que en séparant finalement ce qui se passe dans le Moyen-Orient et ce qui se passe en fait sur notre sol, il faut quand même reconnaître qu'actuellement, depuis quelques années, on meurt parce qu'on est juif.
Terminé, Alice Assier, votre
intervention. Ça n'empêche pas, évidemment...
Aux États-Unis, il y a un enfant et sa mère qui se sont fait attaquer parce qu'ils étaient d'origine palestinienne.
Oui,
on est en France, là.
Oui, bien sûr, mais il y a quand même une recrudescence des actes...
Ça n'empêche pas que le racisme existe et que les musulmans sont discriminés pour un certain nombre. On est bien d'accord.
Après, concernant la capacité d'engagement et de mobilisation de la jeunesse, j'avais envie de prendre un petit peu de recul sur ce sujet-là. On l'a vu aux dernières élections, il y a près d'un jeune sur deux qui ne s'est pas rendu aux urnes. Et on a une partie de la jeunesse qui peut être très, très mobilisée, mais pas forcément de la même façon que leurs aînés. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être un peu plus déserter les syndicats et les partis politiques et plus se tourner vers des collectifs comme... avec des thèmes comme l'écologie, l'antiracisme, le féminisme. Mais on a une très, très grande partie de la jeunesse qui peut être un peu démoralisée et qui n'y croit plus, en fait. Et la défiance envers nos institutions, elle est réelle parmi toute la population, je le crois, mais en particulier aussi chez les jeunes. Et je pense que pour lutter contre ça, ça peut passer par déjà un peu plus d'informations sur le fonctionnement de nos institutions, savoir ce que c'est qu'un syndicat, un parti politique, qu'est-ce que c'est censé défendre, par aussi plus d'exemplarité.
De la classe politique,
là,
vous voulez dire ?
Oui, on compte plus le nombre de ministres qui sont mis en examen. C'est illustré en ce moment par notre ministre de la Justice, quoi, qui va être jugé pour prise illégale d'intérêt. Et puis... il est assez évident, je pense, pour une bonne partie des personnes qu'on est dans une sorte de crise démocratique. On ne se sent plus vraiment représenté par...
crise de la représentativité.
Par nos institutions, en tout cas, on ne se sent vraiment plus représenté. Et puis, un dernier point qui, pour moi, est essentiel aussi, c'est que tous les derniers mouvements sociaux ont été réprimés. Et donc, finalement, il y a beaucoup de personnes et de jeunes qui voient difficilement l'intérêt d'aller en manifestation. On a un petit peu perdu cette habitude. Et là aussi, où une mobilisation sociale d'ampleur avant pouvait permettre d'avoir une négociation entre syndicats et gouvernement, ben là, au final, avec le gouvernement Macron, ben, on s'aperçoit que c'est plus possible, que ce soit avec les Gilets jaunes. On l'a vu aussi avec les mobilisations historiques contre la retraite. Ben, il n'y a rien qui a été lâché. Donc finalement, si on prend en compte l'inaction climatique, qui est quand même un sujet important pour la jeunesse, la crise institutionnelle, l'augmentation des inégalités et j'en passe, il y a une certaine démoralisation. Et je trouve que parfois, c'est aussi difficile de demander à la jeunesse de se mobiliser pour que, si de l'autre côté, on ne donne pas envie et espoir aussi à cette jeunesse-là.
Alors, on va parler maintenant de deux points qui ont été très commentés et souvent critiqués. Une absence et une présence. Alors l'absence, c'est celle d'Emmanuel Macron à cette manifestation. Est-ce que vous lui donnez raison de ne pas avoir participé? Il a mis en avant son statut de président de la République qui l'obligeait à une certaine neutralité. Et ou est-ce que vous pensez, au contraire, qu'il a pu commettre une faute politique en refusant de défiler aux côtés d'autres élus et personnalités? Il y avait d'ailleurs deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Marie-Christine Monnoyer.
Moi, je trouve que ce n'est pas une question intéressante.
Ah ben, vous avez le droit, hein. Mais vous savez qu'elle était beaucoup quand même posée la question.
Si vous voulez, je trouve que c'est pas une question.
Pour vous, c'est un non-événement.
Oui.
Son absence est un non-événement. Oui.
C'est un non-événement. Les présidents de la République étaient présents. Les présidents de la République étaient présents au moment du Bataclan, etc. Mais c'était complètement différent.
Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs lui-même.
C'est ce qu'il a dit, oui. Mais je trouve que c'est voilà. C'est pas le sujet. Je trouve que ce que vient de dire mademoiselle est bien plus intéressant de se poser la question pourquoi il n'y avait pas beaucoup de jeunes, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Le président de la République, en plus, il a une position épouvantablement compliquée sur ce point-là. Il est en train de parler, et on le sait, mais on ne sait pas jusqu'où, aussi bien avec les Palestiniens qu'avec...
Le Qatar.
Avec etc.
Oui, parce qu'il y a des négociations, évidemment.
Bon, alors, si vous voulez, quand vous êtes en négociation officielle, si vous dites quelque chose entre-temps, regardez ce qui a été dit ce matin, parce que Monsieur Biden a fait, à l'occasion de la conférence de presse, dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire juste après avoir négocié avec le président chinois. Ben, c'est exactement la même chose. On est dans une situation dans laquelle il n'y est pas allé, il a choisi de ne pas y aller. Pour moi, ce n'est pas un problème.
Bon. Thierry Cotel, vous pensez que ce n'est pas un problème non plus la non-présence, je ne vais pas dire l'absence, la non-présence d'Emmanuel Macron, cette marche?
Oui, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est les raisons qu'il a invoquées pour dire qu'il n'y allait
oui,
pas.
Oui, ben, il y a ça aussi, effectivement.
Après, qu'un président de la République n'assiste pas à ce genre de manifestation, pourquoi pas? Vous avez raison de rappeler que les autres présidents, au moment du Bataclan, ou même François Mitterrand au moment de Carpentras, c'était quand même des événements ponctuels et spécifiques sur lesquels...
Bataclan, l'émotion avait été immense dans le pays, et puis il y avait 2 millions de personnes dans la rue.
Et puis il y avait les autres présidents des autres pays.
Oui, absolument. Oui. C'était difficile que le président de la République française n'y soit pas.
Expliquer qu'il n'y va pas pour ne pas donner le sentiment que... lui, président de la République, insisterait un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles cette manifestation existait. Moi, je trouvais ça... je pense qu'il aurait mieux voulu qu'il n'en parle pas. Ça restait une manifestation... Je voudrais quand même qu'on sépare un peu les deux. Ça restait une manifestation liée pour la République et contre l'antisémitisme. Je veux dire, c'était ça, voire même contre le racisme. Je le sépare par rapport aux autres manifestations qui a pu y avoir lieu par rapport au conflit israélo-palestinien. Ce sont deux choses différentes. Là, on parle en fait de ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas ignorer, évidemment, le contexte.
Et ce qui arrive à nos concitoyens de confession juive.
Et je trouve normal qu'on arrive à manifester aussi pour la paix et notamment pour le fait qu'il y ait deux États. D'ailleurs, une manifestation, effectivement, la semaine prochaine, sur lesquelles, en fait, les mots d'ordre sont... beaucoup plus clair que ceux qui ont été donnés auparavant, que nous participerons d'ailleurs aussi, pour faire en sorte qu'il y ait la recherche d'une paix et notamment de la constitution de deux États, ou en tout cas aller le plus rapidement possible vers deux États. Mais encore une fois, sur la manifestation de dimanche, bon, que le président de la République n'y soit pas allé, pourquoi pas, mais qui donne le sentiment à un moment donné qu'il n'y va pas pour dire qu'il ne veut pas donner raison, sous-entendu à un camp plus
un
que
camp
l'autre,
plus qu'un autre,
me semble être pas oui. Du tout dans sa fonction et dans... Et par rapport à ce qu'il incarne.
Un argument spécieux. Oui. Alice Assy, alors vous trouvez normal qu'Emmanuel Macron n'ait pas défilé avec les autres élus et personnalités politiques dimanche, ou comme Marie-Christine Monnoyer, oui. Vous pensez bon, c'est pas une question.
Je rejoins ce qui a été dit avant. Pour moi, c'est ni normal ni anormal. C'est pas quelque chose qui forcément sur lequel j'ai envie de pointer une attention particulière. Plutôt
donc le fait
sur,
que ça ait fait polémique pour vous.
Ça serait plutôt la présence du Rassemblement National alors, sur lequel.
oui, je me doutais que c'est plutôt ça vous qui vous pose un problème. Donc effectivement, il y a eu. La présence, et ça a été très commenté, discuté avant même que ça ait lieu, d'élus et de personnalités du Rassemblement National et de Reconquête. Donc il y avait Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ils étaient en queue de cortège, hein. Ils ont été un petit peu parqués, si on peut dire. Alors est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient absolument pas leur place à cette marche? Et vous comprenez donc que beaucoup de gens étaient gênés, voire et refusaient de participer parce qu'eux y étaient. Marie-Christine
Non, ils n'ont évidemment pas leur place. Ils n'ont évidemment pas leur place. Et ce qui est terrifiant, c'est de faire comme si les deux parties citées n'avaient pas une histoire et un présent qui soit profondément, raciste.
Alors, on parle d'antisémitisme. Là. Non, non. Vous considérez que Reconquête, exemple, présidée par Éric Zemmour, qui a priori de confession juive, serait un parti antisémite et que le RN serait toujours un parti antisémite puisque c'est l'argument qui a été mis en avant, même si Marine Le Pen a fait tout pour le dédiaboliser.
En tout cas, la plupart des partisans de ces deux partis sont très antisémites. Quand ils prennent la parole, quand ils écrivent, quand ils réagissent, il y a toujours un fond d'antisémitisme.
Ah bon ? Mais vous pensez à qui, là, personnellement ?
Écoutez, j'ai entendu M. Bardella.
Bardella, il a tenu des propos antisémites ?
Non, mais il tient des propos qui sont un petit peu ridicules quand il dit que M. Le Pen n'a jamais été antisémite. Mmh. Hein, que lui, il était trop jeune pour savoir ce que disait M. Le Pen. Bon, ben, quand on est responsable d'un parti, on se souvient de ce qu'ont dit les fondateurs du parti. Et donc, cette histoire-là, elle est inscrite dans, j'ai envie de dire, dans l'ADN du parti. Et de ce fait, elle reste un fond qui est présent et qui donc se partage. Alors, c'est bien de dire, nous avons changé, nous ne le sommes plus, mais en fait, on ne change. Sur un point aussi difficile, il est très difficile de changer.
Hein? Donc, les 41,5% de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour.
Non, là, vous exagérez. Ce n'est pas ça du tout que j'ai dit.
J'entends bien, mais il y en a qui nous écoutent, qui ont voté pour eux. Donc,
mais bien sûr.
Ils doivent se sentir quand même, je ne sais pas,
un petit peu visés. Ce qui serait intéressant de se poser comme question, ouais, c'est est-ce que. Quelle est ma position vis-à-vis de l'antisémitisme ? Est-ce que ce point-là, qui a été un point important pour le parti, FN ou en particulier FN, et donc est-ce qu'il l'est toujours ? Et est-ce que dans ces conditions, je peux adhérer à un parti qui a vécu cela ? Voilà, c'est la question qui se pose. C'est
Thierry Cottel.
Présence illégitime, effectivement, c'est clair. Mais le Rassemblement national est très... La stratégie de Marine Le Pen est extrêmement bien précise et on la connaît déjà depuis quelques temps, c'est-à-dire la dédiabolisation du Rassemblement national. Ça passe effectivement par, des fois même, l'exclusion d'un certain nombre de membres qui, terre après. Je rappelle que l'antisémitisme est un délit et que donc, lorsqu'il y a des preuves d'antisémitisme, les gens, donc, normalement, sont condamnés. Est-ce qu'il y a des condamnations du Rassemblement national, des personnes du Rassemblement national ? Il n'y en a pas parce qu'ils sont suffisamment malins pour éviter, pour certains en tout cas, de prêter le flanc. Parce qu'il faut reconnaître quand même que, je ne dis pas que tous les responsables du Rassemblement national sont tous antisémites. Il y a évidemment par contre une frange de personnalités qui continuent d'avoir des contacts avec des groupes qui sont ouvertement antisémites et sur lesquels évidemment la clarté n'est pas aussi net que ça. Mais indépendamment de l'histoire même, hein, puisque il faut quand même rappeler que les fondateurs du Front National, ça reste... je pense que ça a déjà été dit, mais il ne s'agit pas finalement de regarder ce qui s'est passé auparavant.
Oui, bien sûr.
Après tout, on peut changer, bien que sur ces sujets-là, je suis d'accord avec vous, on ne change pas fondamentalement, mais il ne reste pas moins que expliquer, comme l'a fait M. Bardella, qu'il pensait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il avait été lui-même condamné sur des actes ou sur des paroles.
Ça, on s'en souvient bien.
Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Et puis, la présence du Rassemblement national là a été spécifiquement pour montrer qu'il soutenait d'une manière opportuniste les juifs, mais qu'en même temps, on voit leur attitude par rapport en fait, aux musulmans. D'une manière générale, et c'est vrai que ça pose quand même un problème. Alors les électeurs du Front National ne sont pas tous antisémites. Les électeurs du Front National, malheureusement, sont attirés par le fait que ce parti n'est toujours pas arrivé au pouvoir. J'espère qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas, incarne une espèce d'alternative. C'est là où il faut se poser la question de savoir pourquoi ils incarnent une alternative par rapport à ce qui s'est passé auparavant, avec les différents différents gouvernements de gauche comme de droite qui n'ont pas réussi finalement à répondre aux attentes des Français depuis maintenant plus de 30 ans.
Alors vous, Alice Assier, je vais préjuger de votre réponse, mais je me trompe peut-être.
Non, mais je rejoins déjà pas mal de choses qui ont été dites. Mais depuis l'attaque du 7 octobre, les cadres politiques du Rassemblement national se posent, se pose en premier défenseur
du rempart contre l'antisémitisme.
Alors qu'il faut rappeler que c'est quand même les héritiers politiques des collabos. Ce parti a été fondé par d'anciens SS. En 86, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Un an après, il niait l'existence des chambres à gaz. Et aujourd'hui, on a tous vu cette séquence avec cette députée un petit peu mal à l'aise qui, sous pression des journalistes, a fini par cracher le fait qu'elle pensait, elle, que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Mais c'est contraire à la ligne nationale du parti, et ça a été très bien incarné par Jordan Bardella, on l'a rappelé, qui, sur un plateau, a nié le fait que Jean-Marie Le Pen était antisémite, alors qu'il a été clairement condamné pour cela. Et Marine Le Pen elle-même parle de mensonges historiques, alors que les statuts de son parti ont été déposés par des personnes qui, jusqu'au bout, ont défendu le nazisme. Et lorsqu'on préfère mentir et réécrire l'histoire plutôt que d'assumer et de faire son autocritique, ben, je trouve ça très grave. Et je pense que ça démontre aussi le fait que le Rassemblement national ne change pas, mais juste veut cacher son histoire, et que tout ça, c'est qu'une façade. Et finalement, le RN, il se sert de cet épisode politique et de la lutte contre l'antisémitisme pour achever sa normalisation, quoi.
Et sa dédiabolisation. Alors, il y a quelqu'un qui connaît très bien le sujet, là, qui s'est exprimé récemment, qui a peut-être surpris beaucoup de monde, c'est Serge Klarsfeld, qui lui a estimé, ça il l'a dit publiquement, que le RN, il avait dit le RN, pas le FN, hein, était devenu un parti fréquentable. Alors, il a perdu la boule, vous pensez, Marie-Christine Monnoyer, Serge Klarsfeld?
Je ne sais pas. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, c'est pas possible. Avec toute la vie de Serge Klarsfeld, avec tous les efforts qu'il a fait pendant des années et des années pour permettre à la fois la condamnation des nazis et pour redonner la mémoire de ceux qui ont disparu, est-ce que c'est une question de vieillissement de Serge Klarsfeld?
Ça, c'est de la gérontophobie, attention.
Vous vous doutez bien que je me permets, étant donné mon âge, de le dire. Je ne comprends pas.
Récemment, il était avec son épouse à Perpignan, où il a reçu les médailles de la ville de la part de Louis Alliot. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, ça vient pas de... C'était déjà il y a quelques mois, ça. Thierry Cotel, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie de Serge
Klarsfeld? C'est pas acceptable. Et tout Serge Klarsfeld qu'il est ouais. Et tout ce qu'il a fait ne peut pas... ne l'exempte pas, en fait, d'être critiqué par rapport à ce qu'il a dit là. Je pense que, justement, tous les travaux qu'il a fait par le passé sont minimisés par rapport, en fait, à ce qu'il déclare maintenant. J'ajoute que son fils Arnaud, qui est quand même...
Oui, qui lui est plus jeune, en plus.
Qui lui est beaucoup plus jeune, mais qui en même temps aussi a suivi, évidemment, tous les travaux de ses parents, mais a des positions quand même particulièrement, rudes, et plutôt proches, d'ailleurs, de l'extrême droite israélienne. Et alors, y a-t-il une influence aussi du fils Klarsfeld sur son père? Je n'en sais rien. Mais le fait qu'il ait reçu effectivement une médaille de la ville de Perpignan à la demande de Louis Alliot, je pense qu'il est tombé vraiment dans le panneau dans lequel le Rassemblement National voulait l'attraper, quoi, tout simplement. Et donc, il participe à la banalisation de l'extrême droite actuelle. Quand il dit qu'elle a évolué et qu'il faut se féliciter qu'elle évolue, je suis désolé, mais on sait bien qu'en politique, l'histoire nous le montre. On a eu beaucoup de déclarations et après, les faits sont très différents.
Non, vous, Alice Assier, vous êtes de loin la plus jeune de nous tous, mais vous connaissez quand même Serge Klarsfeld et ses travaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position qu'il a tenue à rendre publique, hein.
Moi, je pense que, bien sûr, je regrette qu'on puisse tenir de ce genre de propos. Je pense que dans l'actualité plus ou moins récente, on ne manque pas d'exemples pour faire des liens entre, que ce soit Marine Le Pen, des cadres du parti ou des militants du Rassemblement National avec l'idéologie néo-nazie ou des groupuscules néo-nazis. Marine Le Pen était proche d'Alain Soral, qui a été condamné pour injure publique antisémite, était proche aussi de Châtillon.
Maintenant, il est proche de Mélenchon, Soral. Mais...
non, mais Châtillon, qui était décrit comme un antisémite maladif. Et je voudrais juste rappeler qu'en 2017, Marine Le Pen avait créé la polémique. Elle avait nié la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Alors, c'est une responsabilité qui a clairement été établie par les historiens. Ça a été reconnu par tous les présidents de la République depuis Chirac. On est quand même en train de parler de la déportation de 13 000 juifs qui ont été... On est venus, c'est des gendarmes français qui sont venus les chercher chez eux et elle nie cette responsabilité-là. Et je trouve qu'une fois qu'on a dit tout ça, on n'a même pas encore parlé vraiment de la dimension raciste de ce parti. C'est quelqu'un que je n'ai pas forcément l'habitude de citer, mais je vais citer notre président, Emmanuel Macron, qui appelait les Français à prendre garde à l'extrême droite, qui confondrait, et je cite, le rejet des musulmans et le soutien aux juifs. Je trouve que c'est important.
Voilà. Alors, je corrige ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que Soral était proche de Mélenchon, je voudrais pas qu'on comprenne ce que je n'ai pas dit. Il est proche des positions de Mélenchon. Il défend plutôt ses dernières prises de position, l'inverse n'étant pas forcément vrai. On va terminer là-dessus. Hein.
On aurait pu parler des absents aussi.
Oui, mais bon. Oui, bah des absents de Jean-Luc, vous parlez de...
Ah bah oui,
de
moi, je pense qu'il y a des moments où il faut dire aussi les choses clairement et que la gauche devrait être claire aussi là-dessus et qu'à un moment donné, prétexter que le Rassemblement national est là pour ne pas participer à une manifestation tient plus en fait de l'électoralisme
que
les vraies convictions qui sont portées malheureusement par certains de LFI.
Vous le regrettez, vous, Alice Assier, que LFI n'ait pas participé à cette marche contre l'antisémitisme, puisque vous êtes dans la NUPES, hein.
Non, mais je peux tout à fait entendre leur position. Nous, c'est vrai qu'on a eu des débats internes, puisque la présence du RN nous posait problème. Mais certains membres de Génération se sont rendus à cette manifestation.
Oui, parce que ce qui comptait, c'était de marcher contre l'antisémitisme, aussi pour manifester notre solidarité avec nos concitoyens de confession juive. Donc on va arrêter là pour ce premier débat. Petite pause maintenant, comme d'habitude. Retour à l'antenne dans une vingtaine de secondes pour un deuxième sujet et un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Et l'on se retrouve avec mes trois invités, Alice Assier, Marie-Christine Monnoyer et Thierry Cotel, pour débattre maintenant autour d'un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, la baisse du niveau scolaire en France. Dans une interview donnée au journal Le Parisien lundi, Gabriel Attal s'est alarmé des résultats des élèves de 4e après la publication des évaluations nationales qu'ils ont passées pour la première fois en septembre. Le ministre de l'Éducation nationale a notamment relevé qu'un peu plus de la moitié des élèves de 4e ne lisent pas convenablement et qu'en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrise pas la résolution de problèmes et la géométrie. Est-ce que vous avez également été très choqué par les résultats de ces évaluations, au sens où vous ne vous attendiez pas à un constat aussi désastreux? Je pense pas que vous attendiez à un constat qui soit bon, mais est-ce que vous partagez l'inquiétude de Gabriel Attal devant l'ampleur du chantier qui s'annonce pour redresser la situation? Je vais donner la parole à Alice Assier.
Allez, je la prends. Je pense que c'est pas nouveau et qu'on sait quand même depuis déjà quelques années que le niveau scolaire est en baisse. Et je pense qu'autour de cette table, on sera tous d'accord pour dire que c'est vraiment pas une bonne chose et qu'il faut tout faire pour inverser la tendance. Et il faut qu'on se redonne, pour moi, comme ambition de reconstruire, retrouver une école publique, laïque et républicaine dont on soit vraiment fier. Et pour moi, il y a quand même plusieurs facteurs en cause. Alors, je voulais... J'ai retrouvé cette citation d'un livre « Lettre à une maîtresse d'école » sous la direction donc d'un prêtre enseignant italien. Il disait, je cite, « L'enseignement ne connaît qu'un seul problème, les élèves qu'il perd. Vous dites que vous avez recalé les crétins et les paresseux, c'est donc que vous prétendez que Dieu fait naître les crétins et les paresseux chez les pauvres. » Et je trouvais que cette citation, elle avait l'avantage de mettre le doigt sur quelque chose qui a été aussi redémontré par justement ces évaluations nationales, c'est que l'origine sociale, c'est le facteur déterminant dans la réussite à l'école d'un élève. À un moment donné, l'école française s'est massifiée, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est démocratisée? Je ne pense pas. On peut dire qu'il y a une démocratisation ségrégative qui est à l'œuvre. Et là où on pouvait penser il y a quelques décennies que l'école permettait de mettre fin au processus de reproduction sociale, Bourdieu a prouvé que non. L'école aujourd'hui perpétue, voire même accentue les inégalités sociales. Alors il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut... On peut rendre l'école réellement gratuite. Ça peut passer aussi par les fournitures scolaires, la restauration. Je pense qu'il est essentiel aussi de favoriser la mixité scolaire. Je vois d'un très mauvais œil la proposition de Gabriel Attal de créer des groupes
des
de
groupes,
niveau.
Oui.
Et puis, pour moi aussi, il faudrait baisser les dotations de l'État aux écoles privées en abrogeant notamment la loi Carl et vraiment réinvestir massivement pour une école publique.
Bon, ben c'est très bien d'avoir cité un prêtre sur Radio Présence, je vous félicite, hein, vraiment, vous faites très bien le travail. Marie-Christine Bonnoyer, l'enseignante parmi nous, là, vous avez forcément pas mal d'idées sur la question.
Alors, d'abord, c'est évidemment pas une nouveauté. Et le fait que ça ne soit pas une nouveauté...
Alors, c'est pas une nouveauté, mais est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi catastrophique?
Ah non, mais je m'attends évidemment à ce que ça soit catastrophique, puisque je le vois tous les jours. Donc, c'est pas une nouveauté et c'est catastrophique. Mais le fait que ça ne soit pas une nouveauté est en soi-même catastrophique. Parce que, ça fait maintenant pratiquement 20 ans que l'on voit tous les ans le niveau, l'analyse PISA, le niveau se dégrader dans notre pays et par rapport aux autres.
Et on recule dans la hiérarchie à
voilà.
chaque fois.
Et donc, ça, c'est... un problème majeur. Alors, Gabriel Attal met le doigt sur les mathématiques et sur la lecture. Pratiquement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 12% des jeunes garçons ne lisent pas du tout convenablement en sixième. 8% des jeunes filles. Ce chiffre, il est énorme.
Oui, il est effrayant. Oui.
Il est énorme. Ça, c'est la sixième, et on voit qu'en quatrième, c'est pas vraiment mieux. Donc, et quand on n'est pas capable de lire, eh bien en plus on ne comprend pas les exposés de mathématiques. Donc évidemment on n'est pas bon en mathématiques parce qu'on n'a pas compris le sens des questions qui sont posées. Donc cette dégradation du niveau de connaissance de la lecture du français et des mathématiques est devenue un véritable fléau pour notre pays. Alors ça c'est un premier point. Ce qu'a dit madame tout à l'heure est tout à fait intéressant, mais je ne suis pas d'accord sur tout. C'est tout à fait intéressant parce qu'il y a un lien entre le niveau, la diminution du niveau et les problèmes de différence sociale. Et ça, c'est très net. Vous voyez, sous les yeux, je suis venue avec un graphique. Ce graphique, il est totalement officiel, il est européen. Et quand on le regarde, alors on ne peut pas le voir bien parce qu'on est à la radio, quand on le regarde, on voit qu'il n'y a en Europe, et même là, il est au niveau... de l'OCDE, il y a en Europe que 3 pays qui font moins bien que nous en termes de lien entre niveau et problème, différence sociale au niveau OCDE. Et tous les autres font mieux. Et pour ceux qui sont autour de la table, quand on regarde ce graphique, vous voyez, la France est là. Tous ceux qui font mieux, c'est tous ceux qui sont là. Donc on est dans une très mauvaise situation. Ça veut donc dire que le problème à résoudre est compliqué. Il est compliqué... Mais, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, il est compliqué et c'est de la faute à tout le monde. Et ça, c'est pas facile à entendre. C'est de la faute, bien entendu, du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, etc.
Qui se sont succédés depuis 20 ans au moins.
C'est de la faute des profs. C'est de la faute des parents. C'est de la faute des enfants. Donc, quand on a dit ça... alors on va dire mais c'est pas possible, pourquoi dire que les profs font pas tous bien leur métier, pourquoi les parents font pas tous bien leur métier, pourquoi les gamins ne font pas bien leur devoir, etc. Il n'empêche que c'est un mélange entre toutes ces responsabilités. On n'a sans doute pas le temps de les analyser en détail,
non.
Mais c'est très important de se rendre compte qu'on ne s'en sortira pas par un décret ou par une nouvelle loi de M. Attal, même si on peut avoir des espoirs dans ce qu'il a dit, parce que ce qu'il dit est tout à fait intéressant, entre autres sur cette prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est un problème qu'il va falloir travailler d'arrache-pied. Et ce qui est très ennuyeux, c'est que nous étions un pays de mathématiciens. Nous étions un pays de médailles Field.
On en a encore.
On en a encore parce qu'ils sont vieux.
Voilà. Villani, il n'est pas très vieux.
Non, mais, il n'est pas très vieux.
Mais on a encore des gens qui sont très très forts.
Voilà.
Par contre,
mais
on a
un trou, voyez, absolument. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Et c'est catastrophique parce que peut-être que des médias et fils, c'est intéressant, mais ce n'est pas utile tous les jours. Tandis
que compte, c'est le niveau moyen quand même de tous.
Mais ce qui est important, c'est le niveau moyen. Or, le niveau moyen en mathématiques comme en lecture s'est effondré. Et les conséquences sur les entreprises sont fondamentales. Parce que les entreprises ne vont pas trouver des techniciens solides sur le plan en mathématiques, physique, etc., ou des jeunes n'iront pas en physique faire de la physique parce que et parce qu'ils veulent pas faire de mathématiques, etc., etc. Et il me semble que chaque Français qui est lié à l'enseignement, qui a des enfants ou des petits-enfants, chaque gouvernement doit se poser la question: est-ce que j'accompagne les jeunes qui sont sous ma responsabilité ou qui sont dans mon affection pour que cette catastrophe ne s'amplifie pas? Je laisse la parole aux autres et je suppose qu'il y aura un retour.
Oui, alors je vais faire un petit rappel. Il y avait déjà un livre qui avait fait un constat catastrophique. C'était en 2005, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était La fabrique du crétin de Jean-Paul Brighelli, 2005. Thierry Cotel, vos constats...
Je ne l'ai pas lu, mais
non, mais
je vous fais confiance.
Ça vaut la peine de le lire pour voir qu'il y avait déjà des constats qui avaient été posés et des causes qui avaient été identifiées.
Le constat, on le partage tous. Et puis, effectivement, je partage le fait que...
Oui, donc il n'y a pas de surprise sur ces évaluations.
C'est pas nouveau. Non, moi, je pense que l'école, que j'appelle l'école de la République, depuis un certain nombre d'années, est attaquée de toutes parts. On est passé finalement d'une éducation où on avait des professeurs qui éduquaient à une espèce d'instrument démocratique où tout le monde met son nez dedans, c'est-à-dire les parents, les professeurs, les enfants, etc. Bon. Avec, à mon avis, une dérive qui date d'une trentaine d'années, où on met l'élève au cœur ou au milieu, en réalité, de l'éducation, alors qu'en réalité...
Certains parlent des années 80, vous savez.
Fin des années 89, très précisément, et je connais le ministre qui l'a mis en place, malheureusement. Mais, en tous les cas, la transmission, en fait, du savoir, c'est-à-dire la transmission des choses, on va dire, élémentaires, dès le plus jeune âge, ne se fait plus comme il se faisait à une certaine époque. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, etc.
Mais
sur un certain nombre de points, et notamment, justement, sur une mixité sociale en termes de réussite scolaire, on peut quand même dire que lorsqu'on était fils d'ouvrier ou fils de technicien, on y arrivait mieux à une certaine époque, alors que maintenant, c'est
on pouvait être
absolument pas le cas.
Finir en école d'ingénieur.
Exactement.
Ou plus haut encore.
Et là, ce n'est pas le cas. Il suffit de voir un peu en école d'ingénieur ou en prépa qui, en fait, accède, quelle est, en fait, la profession des parents, des élèves qui accèdent, en fait, à ça, pour constater qu'on a quand même un grave problème sur la façon dont dont l'école est arrivée là où elle allait. Alors après, c'est aussi le reflet d'une société qui a quelques soucis. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire en termes de pédagogie, et on sait que sur un certain nombre de méthodes pédagogiques, des choses qui ne marchent absolument pas, d'autres choses qui marchent plutôt bien, et peut-être éviter en fait d'avoir une vitesse différente entre les différentes écoles. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Alice sur l'enseignement privé. Que je trouve particulièrement privilégié par les aides de l'État, il faut aussi le dire. Il refuse d'ailleurs d'essayer de travailler la mixité sociale, ou alors il demande un petit peu plus de subsides complémentaires pour pouvoir le faire. Tout ça n'est pas acceptable.
Ça, c'est pas une conséquence de la situation plus qu'une cause.
Non, mais quand on essaie d'avoir en fait des établissements, c'est quand même la réalité. On s'aperçoit que finalement maintenant les établissements publics concentrent finalement l'ensemble des difficultés sociales qu'il peut y avoir, alors que les établissements privés, c'est pas le cas. Et ça, c'est l'inverse par rapport à ce qui se passait il y a une quarantaine d'années. Moi, j'ai déjà quelques années derrière moi, lorsque j'étais en école primaire ou en école ou au collège, quand on allait dans le privé, c'est parce qu'on n'avait pas réussi dans le public.
Oui,
bon,
tout à fait.
Maintenant, c'est l'inverse. Donc, il faut quand même qu'on se pose des questions aussi sur la façon dont on donne les dotations et sur la façon dont il faudrait revenir sur ce que j'appelle moi une école républicaine, là où effectivement on donne le maximum de chances de réussite à tous, quelles que soient ses origines sociales.
Marie-Christine Monnoyer, sur ce point de l'enseignement privé.
J'ai enseigné toute ma vie dans l'enseignement public, donc je ne vais pas faire de... Non, ce qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement une question de dotation financière. Parce que ce que vous venez de dire...
Je n'ai pas dit ça. Non, mais je comprends. Mais je n'ai pas dit ça.
C'est... c'est bien plus compliqué que ça.
Oui, oui.
Ce qui est très, très complexe aujourd'hui dans cette dégringolade, c'est qu'on a choisi, c'est vrai, un certain nombre de méthodes d'enseignement et surtout, on a choisi des formes de positionnement. Je vais raconter une anecdote. J'ai un certain nombre de petits-enfants. Il y a 2 ans, j'avais un week-end, un de mes petits-fils qui était à l'époque en classe de 3e et un de ses copains qui était dans la même classe. Et ces deux jeunes-là étaient donc là pour tout le week-end et donc, en bonne grand-mère, le samedi, je dis, vous avez apporté vos cartables, on avait dit oui, et qu'est-ce qu'il y a donc à faire pour lundi ou mardi? Et il y en a un des deux qui me dit, on a des exercices à faire en physique. Et l'autre qui dit, non, on n'en a pas. Comme ils sont dans la même classe, étonnant. Évidemment, ça m'interpelle.
Oui.
Et donc, je regarde sur l'EMT. Tous ceux qui ont des enfants savent ce que c'est que l'EMT. C'est le cahier de texte numérique qui n'existait pas autrefois. Et je vois, pour les plus courageux, exercice de physique, 3, 4, 5, page X. Mon petit-fils me dit, moi, je ne suis pas courageux, donc je ne le fais pas.
Je me dispense, oui. Et c'est lui qui se dispense.
Nous sommes dans un collège public, bien connu à Toulouse, du centre-ville. J'ai raconté cette anecdote à des tas de familles et qui m'ont dit « Ah, toi aussi !» C'est-à-dire que, et quand certains de mes enfants qui sont au conseil de classe en tant que parents délégués, etc., qu'est-ce qui est répondu ? Est répondu, quand on donne du travail, les jeunes ne le font pas. Et comme on ne veut pas pénaliser ceux qui ne le refont pas, eh bien on met cette petite phrase « pour les plus courageux, etc. » Et donc les familles qui ont envie d'aider le font, et vont aller regarder sur l'EMT, et ceux qui n'ont pas envie ne le font pas. C'est une histoire comme ça, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Parce que ça veut dire qu'on n'emmène pas tout le monde.
Oui.
Or, il faut emmener tout le monde. Oui. Bien sûr que l'exercice de physique, il est obligatoire. Sinon, on ne le donne pas. Et il faut que... Et c'est pareil pour des tas de disciplines. Pourquoi on ne donne pas de vocabulaire anglais à apprendre comme je l'ai fait à certains moments de mon adolescence. Parce que si on en donne, eh bien la plupart ne l'auront pas fait. Donc on ne veut pas les mettre en position difficile. C'est dur pour moi de dire une chose pareille. Parce que, au fond, certains vont me dire, mais là vous accusez les professeurs. J'accuse personne. Je me dis, il faut que, quand on a des enfants qui vont à l'école, il faut qu'on essaye d'emmener tous ces gamins, tous ces ados vers une compréhension, un apprentissage de... Quand on dit, quand le maître du CP dit qu'il faut lire le soir 4 lignes qui ont été marquées dans le cahier, si on ne les lit pas, eh bien on n'aide pas son gamin à apprendre à lire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est la responsabilité de tout le monde. Et ça, c'est pas une question uniquement de finances. C'est une question de positionnement.
De mentalité aussi. Hein.
C'est une question de positionnement par rapport aux besoins d'apprentissage. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du passé à certains moments. Dans les années 60, par exemple, la plupart des personnes qui venaient d'un pays étranger avaient un objectif qui était d'apprendre, d'aller à l'école et de faire réciter les leçons, etc. Aujourd'hui, tout le monde doit l'avoir, que l'on soit issu d'un autre pays ou issu de son pays. Si on ne le fait pas, on n'aide pas les gamins. Et qu'est-ce qu'ils font nos gamins pendant ce temps-là? Au lieu de lire ou de faire l'exercice de physique, ils regardent leur téléphone.
Ouais. Bah, peut-être qu'il faut remettre aussi tout simplement au centre de tout ça des mots comme exigence, dépassement de soi, quel que soit le niveau d'où l'on part. Bon, voilà. On va arrêter là-dessus parce que je vais vous donner un peu de temps pour vos coups de gueule et coups de cœur du moment. Je sais que Alice Assier tient beaucoup au sien. Alors, on vous écoute. Allez-y. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule?
Oui, mais c'est dommage. J'avais encore des choses à dire sur l'enseignement.
Oui, mais on arrive à la fin,
voilà, c'est un sujet qui peut...
Ça va revenir dans l'émission, c'est sûr.
Non, mais moi, mon sujet, c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur. J'ai envie de dire, c'est presque un coup d'humanité. C'est un sujet qui nous touche qui nous touche tous de près ou de loin, c'est celui du suicide. On en a parlé un peu il y a quelques semaines lorsque quelques adolescents sont passés à l'acte en mettant en lumière le harcèlement scolaire qu'ils subissaient. C'est un sujet majeur, on estime à peu près à 10 000 personnes le nombre de personnes qui se suicident en France chaque année. Et j'avais deux informations importantes à vous communiquer. D'abord, c'est que l'Agence régionale de la santé met en œuvre dans la région, dans toute l'Occitanie, des formations sur la prévention du suicide accessibles à tous les professionnels. Donc, c'est à différents niveaux, que vous soyez du secteur médico-social, un simple citoyen. Ces formations ont pour but de vous donner des outils pour faire face et pour potentiellement venir aider des personnes qui auraient des idées suicidaires. Et puis, dernier point très important, c'est le numéro national d'appel, le 3114. Si jamais il vous arrive d'avoir des idées suicidaires, n'hésitez pas à appeler. Vous aurez des psychologues et des infirmières formées à l'écoute qui vous répondront. Alors malheureusement, ce numéro est un peu victime de son succès, si vous me permettez la formule. Il y a énormément de personnes qui appellent et le temps de trouver du nouveau personnel, c'est vrai que parfois il faut patienter. Donc prenez le temps et de tous les cas, quelqu'un vous répondra et vous offrira une écoute non jugeante.
31-14. Thierry Cottel, coup de gueule, coup de cœur. Très très vite, hein. Alors, je ne sais pas, Marie-Cassine Monnoyer, 30 Alors, moi, secondes.
À tous ceux qui ont été sensibles à l'idée de faire disparaître l'AME, l'aide médicale
d'État,
je voudrais rappeler que l'AME ne s'obtient pas facilement, qu'elle suppose de faire des démarches, qu'elle ne s'adresse qu'à des personnes qui sont en France depuis plus de 3 mois, qu'il ne faut effectivement pas avoir de titre de séjour depuis plus de 3 mois, qu'il ne faut pas avoir des ressources qui dépassent un certain plafond. Et donc, l'AME n'est pas quelque chose qui est attractif pour les étrangers.
C'est un sujet qui a été abordé dans la loi immigration. Thierry Cottel, vous avez le droit juste à... Mais très, là, j'ai 10 secondes pour vous.
La ratatouille.
Ratatouille.
Voilà.
Voilà. Et ben voilà.
Ratatouille, déficit commercial, plus de 450 millions en 2022. Les tomates, les poivrons, ça c'est mon coup de gueule. On devrait pouvoir produire en France ce que nous mangeons.
Bon,
c'est tout.
Très bien. Merci pour cette célérité. Cette 132e élève de l'info est terminée. Merci à mes trois invités d'y avoir participé. Bravo Alice Assier, vous avez fait une très belle première. Merci à Coraline Camebra qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à tous de votre fidélité à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine.